Bienvenue dans The Debate. Aujourd'hui, nous analysons un vrai paradoxe démocratique. Que se passe-t-il quand une nouvelle architecture étatique est validée par près de 95% des voix?
Mais que, en même temps, 7 électeurs sur 10 ont tout simplement refusé de se déplacer.
Exactement. Nous décortiquons donc ce 25 juillet 2022 en Tunisie. Et surtout la consolidation du pouvoir qui a suivi jusqu'en 2024. Sommes-nous face à une refondation légale et pragmatique, vitale pour débloquer un système paralysé?
Ou bien s'agit-il d'une dérive autoritaire, simplement masquée par un vide électoral absolu? C'est vraiment la grande question.
Voilà. Et personnellement, je suis convaincue que la stricte validité juridique du scrutin, couplée au suicide stratégique de l'opposition, a offert à ce nouvel ordre une base tout à fait légitime.
Et de mon côté, je suis persuadé que ce vernis légal ne pèse vraiment rien face à la réalité politique. L'abstention massive et la destruction méthodique des contre-pouvoirs privent ce régime de toute véritable légitimité populaire.
Bon, si l'on s'en tient au droit pur, la victoire du référendum est inattaquable. Le oui l'a emporté à 94,6%.
Oui, mais avec quelle participation?
Justement, les textes n'exigeaient aucun seuil de participation minimale pour valider le scrutin. C'est un point crucial. L'opposition a choisi le boycott. Et c'est une arme à double tranchant, à laquelle elle s'est gravement coupée.
Ah ça oui!
En appelant à ne pas voter, plutôt qu'à combattre le texte dans les urnes, elle pensait délégitimer l'élection. Mais elle a en réalité offert au pouvoir le boulevard juridique dont il avait besoin pour refermer la parenthèse de 2014.
Le boulevard était peut-être ouvert, oui, mais il était totalement désert. Ce chiffre de 94%, c'est un mirage quand on sait que la participation a péniblement atteint les 30,5%.
Légalement parlant, ça suffit.
Peut-être, mais on parle de moins d'un inscrit sur trois. Et encore, cette confiance est ébranlée par la valse des chiffres. Le soir du scrutin, on annonçait 27,5%, un chiffre révisé à la hausse le lendemain. Ce n'est pas un plébiscite, c'est un désaveu silencieux, surtout quand on compare au compromis historique de 2014.
Un compromis, oui, mais un dialogue qui avait fini par se transformer en corruption systémique et surtout en un blocage institutionnel complet. Le remède de l'hyperprésidentialisme s'imposait presque de lui-même.
S'imposait?
Oui. Reprenons l'image d'un navire en pleine tempête. L'équipage politique de 2014 passait son temps à se battre sur le pont au lieu de manœuvrer. Si, face au naufrage imminent, le capitaine décide de prendre seul la barre, la faute incombe-t-elle vraiment au capitaine ou plutôt à ceux qui ont saboté le navire?
L'image est poignante, je vous l'accorde. Sauf qu'en l'occurrence, le capitaine n'a pas seulement pris la barre, il a carrément démantelé le navire pour en construire un autre, tout seul, sur mesure.
Mais le texte a été soumis au vote.
Un texte qui n'est même pas issu d'une commission indépendante, il a été rédigé, puis raturé et amendé unilatéralement par le président. Ce nouveau navire relègue le Parlement au rang de simple figurant et, place la magistrature sous tutelle. Comment justifier qu'un seul homme s'arroge le droit de redessiner toutes les règles du jeu?
Cette concentration du pouvoir pose la question de sa durabilité, c'est évident. Mais c'est là que le mécanisme de survie de ce régime devient très intéressant.
Intéressant comment?
Eh bien, la légitimité ne découle pas seulement de l'enthousiasme des urnes, elle vient aussi du pragmatisme géopolitique. Pourquoi l'Europe ou le FMI continuent-ils de composer avec ce gouvernement post-2022?
Par intérêt, clairement.
Exactement. Parce que sur des dossiers brûlants, notamment la question migratoire, ce régime assure une vraie stabilité institutionnelle. Les bailleurs internationaux préfèrent un interlocuteur unique et fort à une démocratie totalement paralysée.
Mais à quel prix cette stabilité est-elle achetée? Sur le plan interne, le désintérêt de la population ne fait que s'aggraver. Regardez les législatives qui ont suivi en 2022 et 2023.
Oui, les chiffres sont bas.
Baisse. La participation s'est effondrée à 11% au premier tour. C'est abyssal. Et sans aucun garde-fou, que fait ce pouvoir? Il multiplie les arrestations d'opposants, de journalistes, souvent pour de prétendus complots.
Il y a une fermeté sécuritaire, c'est vrai.
Et la Cour constitutionnelle, l'ultime rempart qui était pourtant prévu par ce nouveau texte, elle n'a tout simplement jamais été mise en place.
Bon, 11%, c'est vertigineux, je l'admets volontiers. Le régime ne tient pas par la ferveur populaire, mais bien par l'absence d'alternatives crédibles. Et c'est le cœur de notre analyse d'aujourd'hui.
C'est-à-dire?
Nous avons une armature légale formelle, solidement implantée, face à une électorat qui regarde ailleurs. Au fond, ce que cette transition révèle, c'est avant tout l'épuisement profond d'une population traumatisée par 10 ans de querelles partisanes.
Oui, une vraie lassitude.
Voilà. Cette lassitude totale a agi comme un anesthésiant, ce qui a grandement facilité le passage en force.
Sur ce point précis, nous nous rejoignons. C'est la méfiance généralisée d'un peuple, hier envers ses partis politiques et aujourd'hui peut-être envers cet exercice du pouvoir très solitaire. C'est un peu comme couler les fondations d'un édifice en pleine nuit, sans aucun inspecteur. Le béton a pris, certes, mais sur quoi repose-t-il vraiment ?
Légalement parlant, la structure tient debout, mais l'avenir nous dira si la loi à elle seule suffit à porter le poids d'une nation quand la majorité a choisi le silence. C'est vraiment la grande question que cette parenthèse politique laisse en héritage.
Tout à fait.
Merci de nous avoir rejoints pour The Debate.